RFI, les 16h, temps universel, 17h, ici à Paris, bonjour.
Charlotte Hydrac.
À la une, les préparatifs de la mise en œuvre de l'accord de trêve à Gaza. Il doit entrer en vigueur demain matin à 6h30 temps universel. De nouvelles frappes israéliennes ont visé aujourd'hui le territoire palestinien. De leur côté, les rebelles houthis ont revendiqué un tir de missile sur Israël. Un accord qui va se concrétiser à la veille de l'investiture de Donald Trump aux États-Unis. Changement dans le protocole à cause du froid. La cérémonie se tiendra finalement à l'intérieur du Capitole. Selon son entourage, les expulsions d'étrangers des États-Unis pourraient débuter dès la semaine prochaine. À la une aussi, une attaque odieuse selon l'Ukraine. À Kiev, 3 personnes ont été tuées ce samedi dans une frappe de missile balistique russe. En Corée du Sud, la justice doit trancher sur une prolongation ou pas de la détention du président déchu. Yoon Suk-yeol a comparu aujourd'hui. Et puis en Allemagne, le coup d'envoi des festivités à Chemnitz, en Saxe, capitale européenne de la culture 2025. Un mouvement de panique cet après-midi dans le centre de Tel Aviv, dans le sud d'Israël. Donc un assaillant armé d'un couteau a blessé un homme. Selon la police, qui avait fait état dans un premier temps de tirs à l'arme à feu, l'assaillant a été neutralisé. Une attaque à quelques heures maintenant de l'entrée en vigueur annoncée de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Ce sera à 8h30 demain matin, selon le médiateur qatari, 8h30 local, donc 6h30 temps universel. C'est donc le compte à rebours pour la trêve et les premières libérations échelonnées qui vont durer plusieurs semaines. Un calendrier délicat, Nicolas Falaise.
Dès demain dimanche, toutes les opérations militaires sont suspendues. L'armée israélienne se retire partiellement de la bande de Gaza et l'aide humanitaire doit commencer à entrer massivement dans le territoire. Dimanche toujours, le Hamas palestinien est censé libérer 3 otages. On évoque 3 femmes soldates israéliennes et un premier groupe de détenus palestiniens doit retrouver la liberté au même moment. Si tout se passe comme prévu, on sera alors au premier jour de la première phase du cessez-le-feu. Une phase de 6 semaines durant laquelle 33 otages israéliens et 737 détenus palestiniens doivent être libérés par petits groupes à plusieurs jours d'intervalle. En tout, l'accord comprend 3 phases. Le contenu et le déroulé exact de la seconde phase seront discutés dans un peu plus de 2 semaines. Il s'agira là encore de programmer des libérations, des replis militaires israéliens, la liberté de mouvement des Gazaouis et à terme la reconstruction de la bande de Gaza. C'est un calendrier à risque, un processus qui peut dérailler à chaque instant. Nicolas Falaise, Tel Aviv, RFI.
Précision au Caire, il y a quelques minutes, l'Égypte annonce que 1890 prisonniers palestiniens seront libérés par Israël dans la première phase de l'accord. J'ajoute cette attaque revendiquée par les rebelles houthis ce samedi qui revendique donc un tir de missile contre le sud d'Israël. Il a été intercepté. En Iran, 2 juges de la Cour suprême assassinés dans leur bureau à Téhéran, assassinés par un homme armé qui s'est ensuite donné la mort. Les 2 juges avaient présidé d'importants procès ces dernières années. Une enquête a été ouverte. On apprend à l'instant qu'au Nigeria, au moins 70 personnes ont été tuées ce samedi dans le centre du pays. Et cela par l'explosion d'un camion-citerne renversé autour duquel s'était massée une foule pour récupérer du carburant. C'est ce qu'indique l'Agence nationale de sécurité routière. En Corée du Sud, les partisans du président déchu mobilisés au tribunal ce samedi alors que Yoon Suk-yeol a comparu dans une audience consacrée à la demande de prolongation de sa détention. C'est ce que souhaitent les enquêteurs pour l'interroger sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. On attend la décision de la Cour en principe dans les prochaines heures. Quelques pages griffonnées en coréen retrouvées sur des corps de soldats. Les forces spéciales ukrainiennes ont publié des extraits de journaux de bord de Nord-Coréens qui se battent aux côtés des troupes russes à Koursk. Kiev et son allié américain estiment à 12 000 le nombre de Nord-Coréens envoyés pour soutenir la guerre de Vladimir Poutine. Alors qu'est-ce que ces pages racontent du quotidien de ces soldats partis combattre à près de 7 000 km de chez eux? Élément de réponse avec Nicolas Roca.
un nom coréen sur de faux papiers militaires russes déposés sur un corps sans vie, au visage flouté. Dans une lettre émouvante, un soldat souhaite un joyeux anniversaire à son meilleur ami. Un autre, dans son journal de bord, écrit sa dévotion à son pays. Même au prix de ma vie, je suivrai les ordres du leader suprême sans la moindre hésitation. Autant d'images publiées par les renseignements ukrainiens qu'a analysé Anton Sokolin du site spécialisé sur la Corée du Nord, NK News.
C'est très dur d'identifier si ces documents sont authentiques et s'ils appartiennent vraiment à des soldats nord-coréens morts sur le front durant la guerre en Ukraine.
Ces différentes notes, il les a fait analyser par un transfuge nord-coréen qui les juge cohérentes, mais d'autres remettent en cause leur authenticité. C'est donc avec une grande prudence qu'Anton Sokolin interprète les informations qu'elles comportent.
Ces journaux de bord expliquent par exemple comment réagir durant une attaque de drone. On sait qu'une personne doit appâter le drone par exemple, tandis que les deux autres vont le cibler et essayer de l'abattre.
Si ces documents sont bien authentiques, ils attesteraient de l'effort des formateurs nord-coréens pour préparer les soldats aux difficultés de la guerre moderne que ces milliers de Nord-Coréens découvrent dans la région de Koursk.
L'Ukraine visée par une frappe de missile balistique russe. Ce samedi, 3 personnes ont été tuées à Kiev. Attaque qualifiée d'odieuse par les autorités. De son côté, l'armée russe a déclaré avoir frappé un site militaire dans la capitale ukrainienne en représailles à l'utilisation par l'Ukraine de missiles américains ATACMS. Le conflit en Ukraine, Donald Trump a plusieurs fois promis d'y mettre fin rapidement. Le président américain qui sera finalement investi lundi, mais finalement la cérémonie se tiendra à l'intérieur du Capitole et non pas sur les marches à l'extérieur à cause du froid polaire en ce moment sur Washington. Parmi les invités, la chef du gouvernement italien d'extrême droite, Giorgia Meloni, a indiqué qu'elle serait présente. Donald Trump a déjà donné le ton de ses projets, lutte contre l'immigration, l'augmentation des droits de douane ou encore forêt. Le président américain veut revenir dès son retour aux affaires sur les récentes décisions du sortant Joe Biden qui a interdit certains forages pétroliers et gaziers offshore. Un très mauvais signal pour François Gémen, le spécialiste de la gouvernance climatique.
Si l'on reprend toute une série de forages pétroliers offshore, évidemment ça va créer des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires et c'est évidemment en soi dommageable. Mais au-delà, ce qui est surtout dommageable, je dirais, c'est les revirements continuel du message politique sur la transition. Or, il faut savoir que pour que cette transition s'effectue, elle a besoin de signaux clairs et d'un engagement sur le long terme. C'est bien entendu cela qu'attendent les marchés et les investisseurs avant d'investir. Et donc, si le message qu'ils reçoivent, c'est que la politique climatique américaine change complètement tous les 4 ans, selon que le président est démocrate ou républicain, eh bien ça envoie un message d'attentisme et évidemment ça ne permet pas de faire les investissements qui sont nécessaires. Et donc, au-delà des émissions supplémentaires qui vont être générées par la politique de Donald Trump, qui sont évidemment dommageables en elles-mêmes, peut-être le plus dommageable, ce sont ces revirements perpétuels en matière de politique climatique. Chaque revirement, chaque hésitation, chaque atermoiement est un signal d'immobilisme et d'incertitude qui est donné.
Voilà François Gémen, spécialiste de la gouvernance climatique avec Sophie Malibeau. Le coup d'envoi des festivités à Chemnitz, en Saxe, dans l'est de l'Allemagne. C'est la capitale européenne de la culture 2025. Cette ville qui n'a pas très bonne réputation, qui a fait parler d'elle dans le passé pour le rôle négatif joué par l'extrême droite. Elle veut changer son image. Claudia Roos, ministre fédérale allemande de la culture à Chemnitz.
L'art et la culture sont aujourd'hui plus nécessaires que jamais car ils nous rapprochent, ils nous mobilisent, ils sont synonymes de diversité et renforcent notre identité. C'est essentiel pour Chemnitz. Cette capitale européenne de la culture symbolise aujourd'hui nos valeurs européennes, la démocratie, la diversité, le respect ou le dialogue. Et tous ceux qui remettent ces valeurs en question ou les rejettent, ils verront qu'ils sont une petite minorité et que l'immense majorité défend les valeurs de la capitale européenne de la culture. C'est important pour Chemnitz, pour la Saxe, l'Allemagne et l'Europe, à l'heure où nos démocraties sont attaquées.
La ministre fédérale allemande de la culture avec Pascal Thibault à Chemnitz, où commencent donc les festivités de la capitale européenne de la culture 2025. Dès 7h10 ici à Paris, on vous retrouve Hugo Moissonnier pour Mondial Sport. À tout à l'heure.